Chapitre 11. Remis d'Arx. L'interrogatoire. Valentine. Cadeau de noces. Les juges d'instruction en 1838 étaient encore plus mal logés qu'aujourd'hui. On n'avait pas entamé les restaurations du palais de justice et le cabinet de Remis d'Arx, situé tout au bout d'un long corridor qui règne au-dessus de la conciergerie, présentait un aspect assez triste. C'était une pièce de large étendue, mais carrelée comme une mansarde, et qui ne participait en aucune façon aux magnificences sévères de la maison de Saint-Louis. La fenêtre, étroite et haute, donnait sur la cour de la Sainte-Chapelle, alors encombrée de pierres de taille. Le plafond s'écaillait, les lambris demandaient une lessive, et l'apparence de l'ensemble allait presque jusqu'au délabrement. Au centre de la pièce, il y avait une table carrée, posée sur une natte et couverte de papiers en désordre. Vous eussiez dit la table d'un poète. Une autre table, en bois noir, portant pupitre et écritoire, se plaçait en travers de la première comme la barre d'un thé. La muraille qui faisait face à la fenêtre était cachée par des casiers contenant des cartons étiquetés. La tablette de la cheminée supportait un buste de Louis-Philippe, et l'on voyait des deux côtés de la porte principale, à droite une vieille pendule, à gauche un baromètre à cadran. Tout château a ses communs. C'était ici les communs du château de Thémis. Remis d'Arx était seul, debout, le chapeau sur la tête, devant la croisée, dont ses doigts distraits battaient les carreaux étroits et brouillés. Il regardait sans le savoir un vieil orme aux branches à demi dépouillées qui s'en allait mourant parmi les décombres et les moellons entassés dans la cour de la Sainte-Chapelle. Cet orme avait sa renommée. Il était l'un des trois arbres célébrés sous la Restauration par M. de Jouy comme servant d'hôtellerie aux moineaux parisiens. L'un d'eux, le plus illustre, qui avait grandi dans la rue Coq-Héron et vivait encore l'année dernière. L'autre est mort en 1860, tué par les démolitions du quai de la Grève. 6 heures du soir venaient de sonner à la tour de l'horloge. Il n'y a point de bourgeois rangé qui soit si exact qu'un moineau pour le moment de s'accoucher. Des milliers d'oisillons arrivaient en voletant de tous les points du ciel. Pendant quelques minutes, ce fut dans l'arbre hospitalier un bruyant remue-ménage. On s'agitait en piaulant, on s'embrassait peut-être en échangeant les souhaits de bonne nuit, peut-être on disputait à coups de bec ou d'aile les meilleures places du perchoir. Mais graduellement, les mouvements désordonnés se calmèrent, le caquetage aigu baissa d'un ton, puis se tut. Au bout d'un quart d'heure, les 20 000 hôtes de l'auberge aérienne dormaient comme d'honnêtes pierrots. Remis d'Arx n'avait pas bougé depuis le temps. Il sembla s'éveiller à ce silence et découvrit son front pour y passer la main. À ces heures crépusculaires du matin et du soir, quand le jour vient et qu'il s'en va, les objets changent de forme et surtout de couleur. C'était peut-être la brune qui creusait ses rides profondes entre les sourcils du jeune juge d'instruction et qui mettait à ses joues cette mortelle pâleur. Il se retourna lentement, déposa son chapeau sur un meuble et fit dans la chambre quelques pas chancelants. Quand il s'arrêta, ce fut pour déployer un papier froissé qu'il tenait à la main. « Je ne l'ai dit à personne, » murmura-t-il. « Hier, j'aurais pu affirmer que je ne me l'étais pas dit à moi-même. L'idée d'un si grand bonheur n'a jamais pu entrer en moi. Je n'espérais pas. J'étais sûr d'être vaincu avant même d'entamer la bataille. Il a fallu les conseils de Francesca, l'obsession, devrais-je dire, et l'augure favorable porté par le colonel Bozzo, pour combattre à la fois mes pressentiments trop fondés et mes craintes qui devaient se réaliser si vite. » Il s'approcha de la table et s'assit, déposant le papier froissé auprès de 2 autres lettres dont les enveloppes étaient à terre. « Qui peut m'écrire ainsi ? » reprit-il. « Et pourquoi m'écrit-on comme si ce mariage était une chose possible, publique, certaine ? Les gens qui m'adressent ces calomnies savent et ne savent pas. Ils ont pénétré le secret de mon amour que je n'aurais pas confié à mon meilleur ami, mais ils croient que mon amour est heureux. Ils essaient d'empoisonner ma joie avec du fiel. » Il prit à la main les 3 lettres que son regard, chargé d'une immense fatigue, parcourus tour à tour. « Ma joie, répéta-t-il, avec une amertume qui allait jusqu'à l'angoisse. Ah, s'il était vrai, si Valentine m'avait laissé un espoir, je les défierais bien de troubler mon triomphe. Ne sais-je pas aussi bien qu'eux qu'il y a un mystère dans sa vie? Ne me l'a-t-elle pas dit elle-même? Ne s'est-elle pas offerte à me le révéler ?» Il s'interrompit, lisant à demi-voix et sans savoir peut-être quelques lignes de la première lettre. « Vous êtes trompé, votre passion vous aveugle, cette jeune fille est de celle à qui un galant homme ne peut pas donner son nom. Prenez garde, disait une autre lettre, votre mission ici-bas est grave et sacrée, souvenez-vous de ceux qui sont morts, et ne mettez pas cette honteuse aventure entre vous et votre vengeance. Celle que vous allez épouser sera un obstacle au-devant de vos pas. Ceux que vous poursuivez sont puissants et manient des armes inconnues. L'amour est un poison, prenez garde. » La troisième lettre disait « Madame Samayou, saltimbanque et propriétaire d'une ménagerie foraine, a sa baraque en ce moment sur la place Valhubert. Allez lui demander des nouvelles de Fleurette, et vous saurez ce qu'est Mademoiselle de Villanove. » Les doigts du jeune magistrat se crispèrent, et d'un geste violent, il jeta les trois lettres dans le foyer. « Arme inconnue, pensa-t-il tout haut, arme invisible. Tout cela sort de leur mystérieux arsenal. Sont-ils déjà autour de moi? Essaieront-ils de tuer mon âme parce que j'ai mis la vie de mon corps à l'abri de leurs atteintes ?» Sa tête tomba entre ses mains, et sa poitrine rendit un sanglot. « Oh, Valentine, Valentine, murmura-t-il, que m'importe tout cela? Désormais, y a-t-il au monde pour moi une autre pensée que la tienne? Ce n'est pas leur haine qui me brise, et ils n'ont pas forgé l'arme dont la blessure me fait mourir. Une de ces lettres, au moins, disait vrai. Si je n'ai pas encore déserté ma tâche commencée, je suis sans force et sans ardeur pour l'achever. Valentine, elle est là, toujours devant mes yeux, enivrante comme l'amour qui me dévore. Je suis son regard divin qui va vers un autre, et la jalousie me torture. Puis je me reprends à vivre, éclairé par les lueurs de son sourire. Elle devait venir chez moi, car il y a en elle une étrange clémence. On dirait qu'elle souffre du mal qu'elle me fait. Chez moi, elle ne trouvera personne. J'ai pris la fuite, et j'ai bien fait, je ne veux pas la voir. Que m'apprendrait-elle? Est-il au monde une révélation qui puisse guérir la maladie de mon cœur? » Ses deux mains glissèrent le long de ses joues, découvrant son visage défait où il y avait des larmes. « Je le sens bien, dit-il encore d'une voix brisée, j'ai honte, mais je ne combats plus parce que la lutte est impossible. Je l'aime malgré elle, et en dépit de moi-même, je l'aimerai quand un autre sera son maître. Si elle est coupable, je l'aimerais encore, et s'il venait me dire ici ceux qui peuvent tout, pour la conquérir, il faut commettre un crime. » Il n'acheva pas, et tout son sang révolté vint rougir sa joue, pendant que son front découragé s'inclinait à nouveau. Trois petits coups furent frappés au dehors, et un homme du palais, entr'ouvrant la porte, demanda « Monsieur le juge d'instruction, veut-il interroger l'accusé ?» Remy regarda cet homme avec étonnement. Il ne savait plus ce dont on lui parlait. « Quel accusé ? » balbutia-t-il. « L'assassin de la rue de l'Oratoire, répondit l'employé. Les pièces sont sur le bureau de monsieur le juge depuis midi, et il paraît qu'on veut presser l'instruction de cette affaire-là. » Remy jeta les yeux sur un dossier qui était auprès de lui et dont la chemise portait deux noms, Hans Spiegel, Maurice Pagès, le nom du mort et celui du meurtrier. Il eut conscience alors seulement d'avoir été avisé dès le matin que l'instruction de cette affaire lui était attribuée. « J'ai encore quelques notes à prendre, dit-il. Dans une demi-heure, je serai prêt. » L'employé repassa la porte. Remy attira à lui le dossier et l'ouvrit. Le dossier contenait quatre pièces principales. Le procès-verbal du commissaire de police, le rapport de l'inspecteur Badois, celui de l'inspecteur Méguègne et une double feuille volante non signée, qui portait le timbre de la préfecture, deuxième division. Remy Darc s'étala ses divers documents sur son bureau. Il essaya de lire le procès-verbal, mais aussitôt qu'il eut dépassé les formules connues, qui, dans les actes de cette sorte, précèdent toujours l'exposé des faits, l'écriture dansa devant ses yeux. C'est à peine s'il y prit garde, car il était retombé déjà au plus profond de son rêve. Il croyait travailler et sa pensée l'emportait vers la soirée de la veille. Il se voyait au bras de la comtesse Corona et penchant pour la première fois le trop-plein de son cœur, il s'écoutait lui-même confessant les ardeurs, les timidités, les douleurs et les joies de cet immense amour qui était entré malgré lui dans sa vie et qui désormais était sa vie tout entière. Tout lui revenait. Les étonnements de Francesca, l'intérêt si vif et si franc qu'elle avait pris à sa peine, et jusqu'à ses gaietés de femme du monde pleine d'admiration et de pitié. « Depuis le déluge, avait dit la comtesse, on n'a rien vu de pareil. » Et c'était bien vrai, du moins Remy le croyait ainsi. Ce qu'il avait vu, ce qu'il avait lu, ne lui fournissait aucun point de comparaison. Rien ne ressemblait à la chair, à la brûlante tyrannie exercée sur tout son être par cet amour dont la puissance lui semblait invincible. C'était une maladie, une fièvre, un délire qui exaltait au même degré les sens, l'imagination et l'âme. L'image évoquée de Valentine le plongeait dans une extase sans nom où il se sentait mourir à force de trop vivre. Il la voyait belle comme les éblouissements de son martyr enchanté, il écoutait au loin les harmonies pénétrantes de sa voix et buvait à longs traits le filtre magnétique qui jaillissait de ses prunelles. Ceux dont la jeunesse fut austère sont incendiés parfois par la foudre qui frappe tardivement. Les joyeux jours du printemps, les souriantes années que d'autres dépensent en folles amourettes, Remy Darx les avait données tout entières au sombre travail qui avait été si longtemps le but unique de son existence. Son adolescence n'avait rien prodigué au dehors. Tout ce qui brûle chez l'homme s'était amassé en lui silencieusement, et la première étincelle d'amour venant à le toucher avait allumé un volcan. C'était la violence inouïe et la naïveté sans égale de sa passion qui avait si fort étonné la veille Francesca Corona. Il aimait à la fois comme un enfant et comme un vieillard, avec les effervescences du premier âge, avec l'ardeur stérile et désespérée des derniers jours. Rien ne restait en lui, sinon cette flamme triste et souveraine, combattue en vain par l'impuissante volonté de continuer son œuvre. Tout lui parlait de Valentine, mais Valentine elle-même, entrant à l'improviste dans son ancienne voie et lui apportant une aide inespérée, n'avait pu réveiller en lui le feu éteint de la vengeance. Valentine, parlant des assassins de Mathieu Darx, de ces habits noirs que Remy poursuivait depuis tant d'années, Valentine, promettant d'apporter la lumière dans la nuit que tant d'efforts n'avaient pu dissiper, avait été à peine écoutée. De Valentine, Remy ne voulait qu'elle-même, et la révélation promise l'indignait, parce qu'il y voyait l'offre d'un dérisoire dédommagement. Il disait tout cela, c'est-à-dire la confusion de ses souvenirs et l'angoisse de sa pensée, à travers les lignes tortueuses que le commissaire de police avait déposées sur le papier timbré. Le temps passait, sa distraction de plus en plus tyrannique achevait de voiler dans son esprit le vague remords d'avoir négligé son devoir de juge lorsqu'un bruit de pas lourd se fit entendre dans le corridor. La demi-heure était écoulée et l'escorte du prisonnier approchait. Cette fois, Remy Darx s'éveilla en sursaut. Après cette sûreté de coup d'œil que donne l'habitude, il parcourut en quelque sorte du même regard les papiers étalés devant lui. Le procès-verbal du commissaire de police et les rapports des deux inspecteurs concordaient entièrement. Ils étaient clairs et courts. Ils équivalaient presque, tant les circonstances du crime ressortaient frappantes, à une constatation de flagrant délit. Au moment où la porte s'ouvrait, les yeux du jeune magistrat tombaient sur la quatrième pièce, qui n'avait point de signature. Cette pièce, qui tenait toute une large feuille remplie d'une écriture fine et serrée, se terminait ainsi. « Observation importante, on n'a rien trouvé chez l'accusé en fait d'argent, et il portait seulement sur lui une somme insignifiante. On prouvera qu'il avait conçu le romanesque espoir d'épouser une jeune fille noble dont la dot probable s'élève à plus d'un million. La fonction domine l'homme et le relève. » Pour un instant, Remy Darx avait recouvré toute la lucidité de sa pensée parce qu'il s'était éveillé juge. Son œil demeura fixé sur cette page qui apportait à l'évidence le surcroît inutile d'une présomption. Un doute de nature particulière lui traversa l'esprit, un doute qui ne pouvait appartenir qu'à lui et qui se rapportait à la série habituelle de ses recherches. Il pensa, une note analogue était dans le dossier du malheureux qui paya la loi après le meurtre de mon père. Vous ne l'eussiez pas reconnu lorsqu'il releva ses yeux brillants et clairs sur l'accusé qui venait d'entrer, laissant ses deux gardiens en dehors de la porte. Il y avait dans le regard du jeune magistrat une curiosité très vive et quelque chose qui ressemblait à de la sympathie. Le greffier, sortant d'une pièce voisine, s'était glissé vers sa petite table et frottait déjà sa plume contre l'éponge de son écritoire. L'accusé s'arrêta à trois pas de la table principale et resta debout, les bras tombants, la tête haute, mais sans affectation de forfanterie. Il avait les mains libres et ne portait du costume des prisons que la veste sous laquelle on voyait son pantalon d'uniforme. Il était pâle et très défait. Néanmoins, son regard mâle ne laissait paraître aucune faiblesse. Au moment où ce regard, qui était dans toute la force du terme celui d'un honnête homme, se croisa pour la première fois avec celui de Remy Darx, les sourcils du jeune magistrat se froncèrent malgré lui et la paupière de Maurice se baissa. L'interrogatoire commença aussitôt. Sur la demande du juge, Maurice donna ses noms, prénoms et qualités. Le greffier, petit homme maigre, à pince-nez prétentieux, écrivait en songeant à ses affaires. Sur le terrain de l'instruction, il se croyait bien plus avancé que Remy lui-même, et rassasié qu'il était des cancans du palais, il regardait déjà comme une très vieille histoire ce meurtre qui ne datait que de quelques heures. Son opinion était formée solidement. Il avait en lui-même condamné Maurice à l'échafaud, ou tout au moins au bagne, pour le cas où les jurés auraient la faiblesse d'admettre des circonstances atténuantes. Maurice fut quelque temps avant de répondre à la première question qui aborda le fait. Le greffier eut tout le loisir de l'examiner par-dessus son pince-nez et de s'avouer à lui-même qu'il devinait très bien les mauvais instincts de ce beau garçon-là à travers son masque de douceur et de franchise. Maurice dit enfin à voix basse « Je sais que je suis perdu, à quoi bon tout cela ?»« Est-ce un aveu ?» demanda Remy, dont la voix grave prenait à son insu l'accent de la compassion. « Non !» repartit Maurice vivement. « Je jure devant Dieu que je suis innocent, mais qu'importe, vous ne pouvez pas me croire. » Le jeune magistrat dit avec lenteur, « Je ne sais rien, je ne crois rien. Je suis ici pour découvrir la vérité. Votre vie passée plaide le pour et le contre. Vous avez quitté les études qui vous préparaient une carrière honorable pour suivre une troupe de saltimbanques. Mais depuis lors, vous avez porté l'uniforme et votre conduite en Algérie a été celle d'un vaillant soldat. Regardez-moi en face et parlez librement. Si vous êtes tombé dans un piège, dites-le, je vous écoute. » Pour la seconde fois, les yeux de Maurice rencontrèrent ceux de Remy Darx et il murmura « Monsieur, que Dieu vous récompense, je n'espérais pas trouver tant de bonté en vous, mais je n'ai plus d'espoir. » Le greffier avait mis sa plume derrière l'oreille et se disait « C'est donc comme ça qu'on interroge maintenant, excusez. » Maurice poursuivit « Depuis 12 heures que je suis seul dans ma prison, j'ai bien réfléchi. Tout ce qui s'est passé me revenait à l'esprit de point en point, et il me semblait que j'étais mon seul juge. Mon malheur est grand, j'ai souffert cruellement pendant cette journée, mais je n'ai point perdu la tête et je possède toute ma raison. » Vous connaissez la pauvre histoire de ma jeunesse, monsieur le juge. Moi, je ne vous connais pas et j'ignore jusqu'à votre nom. Mais si une lueur d'espoir pouvait naître en moi, elle me viendrait de vous. La loi vous défend-elle de m'entendre en particulier ? La loi exige que l'interrogatoire soit recueilli par le greffier, répondit Remy Darx, et c'est la garantie de l'accusé. Mais la loi ne pose aucune limite au libre arbitre du juge, choisissant les moyens d'éclairer sa conscience. Il s'interrompit et ajouta, en s'adressant au greffier, « Laissez-nous, monsieur Préau, mais ne vous éloignez pas, je vous rappellerai quand il me plaira de reprendre l'interrogatoire légal. » Monsieur Préau rangea ses papiers, déposa sa plume et gagna la porte en répétant, « Excusez, ça prépare des jolis moyens de cassation. » La porte fut bruyamment refermée, car M. Préau était de méchante humeur. Lieutenant Pagès, reprit le juge en se levant, personne ne nous écoute. Vous êtes ici en présence du seul homme qui puisse vous comprendre. J'ai des raisons pour vous croire innocent. Serait-il vrai? S'écria Maurice stupéfait. Remy lui tendit la main en ajoutant, il se peut que je me trompe, c'est vous qui allez m'éclairer. Et si j'ai deviné juste, je suis votre ami, lieutenant Pagès, parce que nous avons les mêmes ennemis. Remy Darks et Maurice étaient assis maintenant, un en face de l'autre. Maurice parlait. Remy, penché sur les pièces éparses du dossier, écoutait attentivement et prenait des notes. Ce n'était plus l'homme de tout à l'heure. Quelque chose de son ancienne passion se réveillait en lui, et pour un instant il redevenait lui-même. Sur son ordre, Maurice avait commencé le récit détaillé de sa vie depuis son départ d'Angoulême jusqu'à son retour d'Afrique. Tout en l'écoutant, Remy consultait les pièces de l'instruction et semblait comparer les dires du jeune lieutenant aux renseignements recueillis par la police. Elle était profonde et peut-être mortelle, la blessure que lui avait faite l'arme invisible. La main qui avait porté le coup était exercée, elle avait frappé en plein cœur. Mais les plaies de l'âme sont comme celles du corps, et tel remède qui n'a pas la puissance de guérir peut du moins calmer la fièvre et produire une trêve. Ainsi en était-il de Remy Darks, qui oubliait un moment son angoisse et se redressait, ravivé par une diversion inattendue. Le lévrier mourant bondit encore si on lui montre la trace du cerf. Remy venait de tomber à l'improviste sur la piste de ceux qui avaient tué son père. Les habits noirs étaient là, il le sentait, le sang corse rallumé tout à coup bouillonnait dans ses veines comme au jour de sa jeunesse. Ses narines dilatées tremblaient, son œil brûlait. Quand Maurice aborda cet épisode de son histoire où, se trompant de porte, il était entré dans une baraque de saltimbanque au lieu d'aller coucher à la caserne, Remy l'arrêta du geste et prit à la main celui des trois rapports qui n'avaient pas de signature. « Voilà un travail admirablement fait, murmura-t-il. Trop bien fait. Cela tient du miracle. Le crime a été commis ce matin, et ce soir nous avons au dossier quelque chose qui pourrait être intitulé « Les mémoires de l'accusé ». J'y trouve tout ce que vous me dites, lieutenant Pagès, avec des détails encore plus intimes sur Madame Veuve Samayou, votre patronne, et sur cette jeune fille qui portait le nom de Fleurette. On a dû interroger un de vos amis, un ami pour qui vous n'avez rien caché. Je me connais de bons camarades au régiment, répliqua Maurice, mais je n'ai jamais confié mes affaires à personne. Alors, demanda le juge, qui avait aux lèvres un sourire presque triomphant, comment expliquer cette merveille? La police mérite rarement qu'on l'accuse d'être trop habile. En quelques heures, il a fallu rassembler les renseignements que voici et qui, en vérité, semblent avoir été donnés par vous-même, tant leur exactitude est complète. Il a fallu en outre rédiger ce rapport, le mettre au net et le déposer à la préfecture qui l'a fait parvenir ici avant mon arrivée. Il y a des sortes d'encre qui sèchent très vite, je le sais, mais l'écriture de ce document ne semble pas toute fraîche. On dirait que la nuit a passé sur cette copie. Pendant qu'il parlait, Maurice le regardait avec étonnement. « Monsieur le juge, dit-il d'une voix très émue, cherchez-vous donc vraiment à me trouver innocent ?»« Je cherche les coupables, répliqua Remy Darks, qui fixa sur lui ses yeux perçants. « Vous ne les connaissez pas encore, et pourtant vous allez m'aider à les trouver. Monsieur Pagès, cette pièce était fabriquée d'avance. »« Vous croiriez ? » s'écria le jeune lieutenant stupéfait. « J'en suis sûr. Ils sont arrivés à ce point d'habileté qu'ils dépassent quelquefois, et la perfection de leur œuvre devient une signature. Je reconnais, moi qui vous parle, tout ce qui sort de cette terrible fabrique. » Les yeux de Maurice interrogeaient et laissaient percer une vague inquiétude. « Soyez tranquille, dit Remy, répondant à ce regard. J'ai tout mon sang-froid, et vous comprendrez bientôt le sens de mes paroles. Tout était préparé, je vous le répète. On rédigeait ce rapport à l'heure même où un autre acteur, jouant dans la même comédie, profitait de votre absence pour briser chez vous une serrure et laisser dans votre chambre deux de ces outils qui n'appartiennent qu'aux voleurs de profession. » La bouche de Maurice resta béante un instant, puis il balbutia. « Je ne vous ai rien dit de tout cela. Comment savez-vous ? Le juge d'instruction sourit encore et poursuivit, au lieu de répondre, « Qui a pu fournir ces renseignements sur votre vie passée? Cherchez bien, il est impossible que vous ne trouviez pas un moyen de me mettre sur la trace. » « Je n'ai pas besoin de chercher, » répliqua Maurice, frappé soudain d'un trait de lumière. « Hier au soir, j'ai vu la veuve Samayou, mon ancienne patronne. »« Évidemment, » interrompit Remy, « ce doit être elle. » Maurice secoua la tête. « Vous vous trompez, monsieur le juge, » dit-il. « Celle-là est le plus honnête cœur qui soit au monde. Sa tête, par exemple, n'est pas de si bonne qualité. Elle m'a avoué elle-même qu'on était venu, qu'on avait tourné autour d'elle et qu'on l'avait fait causer à mon sujet. » Depuis peu, hier, dans la matinée. « Ah, vous voyez bien !» s'écria le magistrat, qui battit des mains comme pour applaudir. « Vous a-t-elle dit le nom de celui qui a tourné autour d'elle ?»« Elle a prononcé deux noms, » repartit Maurice. « Je ne sais plus lequel des deux se rapporte à ce détail. Picpus et Lecoq. » Remy ouvrit avec vivacité sa redingote et prit dans sa poche un carnet qu'il consulta en répétant Picpus, Lecoq. Il tira brusquement le cordon de la sonnette qui pendait au-dessus de son bureau. Lecoq, dit-il tout bas pour la troisième fois. Il ajouta, en s'adressant au garçon qui accourait, appelé par son coup de sonnette, passez sur le champ à la préfecture et dites au chef de la deuxième division que j'ai besoin de l'agent Lecoq. Vous entendez? Sur le champ. Le garçon partit. Remy resta pensif. Maurice se croyait faire un de ces rêves troublés où les incidents bizarres se mêlent et s'entassent pour fatiguer le sommeil des fiévreux. Les corridors du palais communiquent avec ceux de la préfecture. Le garçon, envoyé en exprès, revint au bout de quelques minutes et dit « Monsieur le chef de la deuxième division demande un ordre écrit. » Remy haussa les épaules avec colère et sa plume grinça sur le papier. « Sur le champ » répéta-t-il, en remettant un pli au garçon. « Le refus de monsieur le chef de division serait à ses risques et périls. » Il se leva, et en attendant le retour de son employé, il arpenta la chambre à grands pas. Maurice, qui n'osait l'interroger, l'entendait murmurer « L'administration, la plaie, l'obstacle éternel !» Remy Darc s'arrêta devant la porte pour écouter les pas de son messager dans le corridor et reçut des mains du garçon un pli pareil au sien. Le contenu de ce pli était ainsi. « Il n'y a ni dans mon service général, ni dans le service de la sûreté, aucun agent du nom de Lecoq. » Remy froissa la lettre violemment et la jeta, mais se ravisant aussitôt, il la reprit pour la serrer dans son carnet qu'il remit dans sa poche. Puis il s'assit de nouveau devant sa table et dit à Maurice « Vous n'avez plus rien à m'apprendre. Le rapport de ce Lecoq est exact et je l'ai lu. Vous quittâtes la France à une heure de désespoir. Vous emportiez avec vous un cher souvenir. En Afrique, vous avez joué follement votre vie pour gagner l'épaulette et vous ne souhaitiez l'épaulette que pour avoir le droit de donner votre démission. Vous êtes revenu. Celle que vous aimez est noble et riche. Je n'ai pas besoin de savoir quelle était votre espérance. Vous êtes aimé, cela suffit pour justifier votre retour. Mon opinion est fixée. Je vais rappeler mon greffier pour que mes demandes et vos réponses soient consignées selon le vœu de la loi. C'est désormais une simple formalité. Vous êtes innocent, lieutenant Pagès. J'en ai la certitude absolue, et vous n'avez plus rien à craindre. » Maurice voulut remercier, mais le juge lui imposa le silence en lui montrant la porte qui s'ouvrait. Monsieur Préaux reprit sa place à la petite table. Il était manifestement de très mauvaise humeur. L'interrogatoire de Maurice ne contenait rien qui ne soit déjà connu de nous. Monsieur Préaux, qui était un vieux rat de palais, ne cacha point, en transcrivant les réponses de Maurice, la complète incrédulité qu'elle faisait naître en lui. Quand le jeune lieutenant parla de l'effraction pratiquée à l'avance du monseigneur et de la pince introduite chez lui à son insu, le greffier ne put réprimer un petit accès de ricanement. Maurice poursuivit. Ce fut justement la réunion de toutes ces circonstances qui me donna, ou plutôt qui m'imposa, la pensée de fuir. Je sentais le piège tendu, je voyais la trappe qui allait retomber sur ma tête. Les paroles que j'entendais au dehors étaient accablantes, elles m'ôtaient jusqu'à la volonté de me défendre. On disait, l'assassin est là, et j'y étais, et comme j'avais essayé de secourir mon malheureux voisin, son sang couvrait mes mains et mes habits. Le concierge de la maison allait répétant une phrase terrible, réellement prononcée par moi, et qui se rapportait à un tout autre ordre d'idées, mais elle venait en aide à l'échafaudage des indices qu'on avait entassés autour de moi et qui semblaient compléter l'évidence. J'aurais dû rester, je le sais, et attendre le danger de pied ferme. C'est mon métier de soldat. Fuir, c'est crier. Je suis coupable. Mais j'avais été frappé à l'improviste. Nul éclair n'avait précédé ce coup de foudre. Une chose m'occupait, je dois le dire, c'était la conscience de mon apparente culpabilité. Mes jambes tremblaient. Mon regard se voila et j'entendis autour de mes oreilles un murmure horrible qui était le bruit de la foule rassemblée autour de l'échafaud. J'eus peur jusqu'à perdre la raison. Au moment où ceux du corridor entraient à la fois par la porte du numéro 17 qui était ma chambre et par la porte du numéro 18 où le cadavre gisait, j'étais fou. Je sautai sur l'appui de la fenêtre sans dessein arrêté. Je pense que mon envie était de me laisser tomber dans le jardin, mais mon pied rencontra les barreaux d'un treillage où des plantes grinçantes s'enlaçaient. Rompu comme je le suis à tous les exercices gymnastiques, je n'eus aucune peine à suivre ce chemin aérien et en quelques secondes j'atteignis un grand arbre où j'essayai d'abord de me cacher. Mais s'il y avait déjà du monde dans le jardin, par où ces gens étaient-ils entrés? Que faisaient-ils là? Le drame où je venais d'être acteur avait passé rapide comme la pensée. J'affirme que 10 minutes ne s'étaient pas écoulées entre le premier cri de la victime et le moment présent. Ces gens étaient donc là, d'avance. Le piège avait donc été tendu au dehors comme au dedans. Notez bien cela, monsieur Préau, n'oubliez rien, dit le juge, qui venait de prendre dans le dossier un plan figuratif et qui le déployait devant lui sur la table. Où est l'arbre? Demanda-t-il en s'adressant à Maurice. Ici, répondit le jeune lieutenant qui posa son doigt sur le papier. De là, je voyais ceux qui couraient dans le jardin et ceux qui se pressaient déjà aux fenêtres. On m'avait aperçu au rayon de la lune, car tous criaient à la fois « Regardez, le voici, nous le tenons !» Maurice passa la main sur son front où perlaient des gouttes de sueur froide. Les yeux de Remy, qui s'étaient fixés d'abord sur la partie du plan indiquant le chemin suivi par l'accusé, embrassaient en ce moment l'ensemble du dessin. Le plan formait un angle droit, dont un des côtés portait pour légende « rue de l'Oratoire », l'autre « avenue des Champs-Élysées ». « Eh !» murmura Remy d'Arx avec étonnement, « c'est... l'hôtel d'Ornans qui est là. Peu parbleu, fit le greffier. Il ajouta par lui, voilà comment on étudie les pièces. Le traitement de ces gaillards-là n'est pas difficile à gagner. Une curiosité nouvelle semblait s'éveiller chez le juge, et il écoutait désormais avec un redoublement d'attention. Fuir, continua Maurice, il n'y avait plus en moi que la misérable idée de fuir. J'étais entouré de trois côtés. Mon regard se retourna vers le quatrième et je vis une grande maison tout auprès de moi. Deux croisées restaient éclairées au milieu de la façade sombre. À travers la mousseline des rideaux, je distinguais la forme d'une femme agenouillée qui priait. À la suite des deux fenêtres éclairées et sur le même balcon, une troisième croisée restait entr'ouverte. L'appartement de Valentine, pensa le juge. Ça a l'air de l'amuser. À la place de l'accusé, je demanderai un verre d'eau sucrée. Ce que j'espérais, poursuivit Maurice, je ne saurais le dire. Les femmes ont parfois pitié. J'avais une chance sur 1000 de trouver passage au travers de cette maison et de gagner les Champs-Élysées. Je choisis la branche qui se rapprochait le plus de la maison, je la suivis avec précaution et je me laissai tomber sur le balcon à la vue de tous ceux qui étaient en bas. Je les entendais, ils disaient « Frappez à la porte du grand salon, qu'on fasse le tour par la rue de l'Oratoire pour aller prévenir le concierge. Une échelle, ce sera plutôt fait. » Je poussai la fenêtre entr'ouverte, qui était celle d'un cabinet, juste au moment où une jeune femme que j'avais vue agenouillée s'élançait hors de la chambre, effrayée par le bruit. Elle avait entendu sans doute répéter bien des fois au dehors le mot « assassin ». À ma vue, elle se jeta dans la chambre en poussant un grand cri. Certes, ceux du jardin n'avaient pas eu le temps de faire le tour des Champs-Élysées, et pourtant une porte s'ouvrit, donnant passage à des gens qui disaient « L'assassin, l'assassin !» Elle me montra au doigt celle en qui j'espérais, elle s'écria « Le voici !» et je fus entouré, car on avait trouvé une échelle et les gens du jardin entraient par le cabinet. Je regardai alors cette jeune fille qui m'avait livré, et mon cœur cessa de battre. Je ne prononçai qu'un seul mot, « Fleurette !»« Fleurette !» répéta le juge qui retenait son souffle et dont le visage était devenu livide. « Elle me reconnut aussi, poursuivit Maurice d'une voix altérée, car elle prononça mon nom et vint tomber dans mes bras. »« Dans vos bras ?» répéta encore Robbie Darx. Ses yeux étaient baissés, ses lèvres contractées. Maurice ne prenait point garde au changement de sa physionomie, car l'émotion l'aveuglait. « Quelle position, demanda le juge avec égarement, cette fleurette occupe-t-elle à l'hôtel d'Ornans? Est-elle au service de la marquise ou au service de mademoiselle de Villanove? » Maurice répondit, « Cette fleurette est mademoiselle Valentine de Villanove, elle-même. » Il y eut un grand silence. Le greffier regarda tour à tour les deux interlocuteurs et s'écria, « Monsieur le juge, je se trouve mal !» Remy Darx avait en effet chancelé sur son siège. « Ce n'est rien, » dit-il, et faisant sur lui-même un effort terrible, il ajouta, « Lieutenant Pagès, avez-vous tout dit ?»« Tout, » répliqua Maurice, absorbé en lui-même. Alors monsieur le greffier prononça péniblement Remy, « Donnez à l'accusé lecture de son interrogatoire. » Tout en rassemblant ses feuilles et en assurant ses lunettes, M. Préau se demandait « Que diable y a-t-il donc ?» Il commença « Le vendredi 22 septembre 1838, en présence de M. le juge d'instruction, Remy Darx, a comparu. » Mais il n'acheva pas parce que, à ce nom de Remy Darx, Maurice s'était mis tout debout. D'un mouvement pareil, qui ne dépendait point de sa volonté, le jeune magistrat repoussa son siège et se dressa de sa hauteur. Il y eut entre leurs regards un choc sinistre. Pas une parole ne fut prononcée. Maurice se rassit le premier. Remy Darx l'imita, disant « Greffier, poursuivez votre lecture. » Ce soir-là, le greffier Préau dînait à la goguette des enfants d'Apollon, presque entièrement composée d'artistes judiciaires, auxquels se joignaient pourtant quelques administrateurs des pompes funèbres. Ce peuple lugubre et tout particulièrement folâtre dans ses joies, les messieurs noirs et décorés qui marchent à la tête des convois font des chansons à mourir de rire, et telle pièce du palais royal dont les coq-à-l'âne nous ont procuré une gaieté spasmodique est arrivée au théâtre en sortant du cimetière. Quand Maurice, après la lecture de son interrogatoire, eut quitté le parquet pour rentrer en prison, le greffier alla faire un bout de toilette à son bureau et dit à son commis, « Monsieur Darx a un coup de marteau, un bon. Je viens de voir une scène qui ferait de l'effet à l'ambigu. Je n'ai pas compris tout à fait, mais il y a une dame dans l'histoire et ça promet d'être raide. J'ai mes couplets à faire d'ici la barrière du Maine. Ne vous en allez pas sans prendre les ordres de Monsieur Darx. » Aussitôt après le départ de son chef, le commis brossa le collet de sa redingote, mit un faux col et lustra son chapeau. « Bernard, dit-il au garçon du greffe, j'ai une affaire de famille du côté de Madame Saki. Ne sortez pas sans prendre les ordres de Monsieur Darx. » Je ne sais pas où Bernard était attendu, mais dès que le commis eut tourné les talons, il décrocha sa casquette et ferma le bureau. Quelque chose de semblable se passait dans l'antichambre du cabinet. On ne veille pas tard au palais de justice, et les mœurs y sont patriarcales. Remy Darx ne s'apercevait pas du silence qui se faisait graduellement autour de lui. Depuis longtemps, aucun bruit de porte ouverte ou fermée ne s'entendait, aucun pas ne résonnait dans les corridors. L'horloge du palais tinta 9 heures. Remy était assis à la place même où nous l'avons laissé, sa tête reposait dans sa main, la lumière de sa lampe tombait sur son front où se creusaient des rides profondes. Ses grands yeux ouverts et mornes regardaient le vide. Il n'avait pas bougé depuis le départ de Maurice et le travail de sa pensée était si intense que les muscles de sa face semblaient pétrifiés. Quand, pour la première fois, ses lèvres remuèrent, il prononça ces mots « C'est lui qu'elle aime ». Et il ajouta presque aussitôt après « Sans lui, elle m'aimerait ». Sa paupière se baissa et ses doigts se crispèrent dans ses cheveux. « Elle me l'a dit », poursuivit-il à son insu, et laissant entre chaque phrase de longs intervalles, « Il y a un lien entre nous, quelque chose la pousse vers moi, et le danger de la lutte où je me suis jeté tête baissée l'épouvante. Pourquoi ? Je lui ai rendu un service grave, mais avant le service rendu, elle s'occupait déjà de moi. Pourquoi ? » Le dossier de Maurice restait ouvert devant lui. Il l'écarta d'un geste fatigué et répéta d'une voix où il y avait des larmes « C'est lui qu'elle l'aime ». Une angoisse plus aiguë lui traversa le cœur, car la pâleur de sa joue s'empourpra tout à coup, et il porta la main à sa poitrine. « Il est bien jeune, murmura-t-il. Que m'a-t-il fait? Savait-il seulement que j'existais? Que de bonheur un mot écrit de ma main pourrait lui rendre? Mais pourquoi écrirais-je ce mot? Mon bonheur à moi, tout mon bonheur, il me l'a pris, et sans moi, ne serait-il pas condamné? Il y a évidence, sinon flagrant délit. Donnez-lui n'importe quel juge, hormis moi, c'est un homme mort. » Un sourire amer releva sa lèvre pendant qu'il poursuivait. « Je n'ai même pas besoin de dire il est coupable. Je n'ai qu'à abandonner l'instruction, un autre prendra ma tâche inachevée et... » Il s'arrêta. « Et je l'aurai tué, » prononça-t-il tout frémissant. Ses doigts convulsifs ramenèrent le dossier dont il éparpilla les pièces pour trouver celle qui n'avait point de signature. Il la déplia et lut à demi-voix la dernière phrase. On prouvera qu'il avait conçu le romanesque espoir d'épouser une jeune fille noble dont la dot probable s'élève à plus d'un million. « Leur main est là, » dit-il après un silence. « Je les reconnais. Vais-je me faire le complice de ceux qui ont assassiné mon père ?» Il se leva brusquement et resta un instant immobile. « C'est un tout jeune homme, » pensa-t-il, pendant que ses mains pressaient son front douloureusement. « Son regard loyal reste devant mes yeux. Il y a des gens dont les cœurs sont frères et que la destinée force à se haïr. Ma main a touché sa main, je lui ai promis de le sauver. » Il marcha d'un pas lent vers la fenêtre qui donnait sur la cour de la Sainte-Chapelle. Une lanterne fumeuse placée au-dessus de la porte des bâtiments voisins de la préfecture allongeait l'ombre des matériaux épars sur le pavé. L'arbre se dressait, noir, au milieu des décombres blanchâtres. Au ciel, les nuages orageux couraient et découvraient parfois la lune qui nageait dans un lac d'azur. Il n'y avait plus de lumières aux fenêtres, la journée des ouvriers de justice était finie, le palais dormait. Remy n'aurait rien vu de cela si un mouvement ne s'était fait parmi les pierres. Une femme, une ombre plutôt, glissa derrière les décombres et traversa la cour. Remy se frotta les yeux et s'éloigna de la fenêtre en disant « Je la vois partout. C'est de lui que je parle, mais c'est à elle que je pense. J'ai beau lutter, j'aurai beau combattre, cet amour est plus fort que moi, il m'entraîne, je mourrai fou et peut-être criminel. » Au profond abattement qui la comblait naguère, l'agitation succédait. Il parcourait la chambre d'un pas rapide, tandis que des paroles entrecoupées tombaient de ses lèvres. Il murmurait « Si j'étais fou déjà, qu'est-ce que la folie, sinon une façon de voir entièrement opposée à l'opinion de tous? Que je vienne dire, il est innocent devant un tribunal, les juges, les jurés, le public me répondront « Il est coupable, cela saute aux yeux, la raison le crie, il n'y a qu'un fou pour prétendre le contraire. » Et pourtant, mon Dieu, dit-il en se laissant tomber sur son siège, il est innocent, je le sais, et sa vie est entre mes mains, parce que je suis le seul à le savoir. Je cherche en vain à me tromper moi-même, je donnerai ma fortune, je donnerai tout mon sang pour trouver en moi un doute, il n'y en a pas. Et Valentine l'aime, et plutôt que de renoncer à Valentine, je mettrai sous mes pieds ma conscience et mon honneur. Ces derniers mots s'échappèrent de sa poitrine comme un râle, et sa tête où les cheveux se dressaient s'affaissa lourdement. Il resta ainsi longtemps, le front contre ses bras croisés sur la table et pareil à un homme que l'ivresse aurait vaincu. Parfois tout son corps frissonnait, secoué par un tressaillement douloureux. Parfois aussi le nom de Valentine s'exhalait de ses lèvres. Un bruit se fit à la porte du corridor, il ne l'entendit pas. Une main froide toucha la sienne, il crut rêver et ne bougea pas. Mais une voix douce et grave dit auprès de lui « C'est moi, monsieur Darx, je vous avais promis de venir. » Il leva les yeux et se prit à trembler. Mademoiselle de Villanove était devant lui. « On dirait que je vous fais peur, » murmura-t-elle avec un triste sourire. Et en effet, le regard de Remy exprimait une étrange épouvante. Son premier mot trahit sa pensée. « J'ai parlé, » murmura-t-il, « vous m'avez entendu. » « Je n'ai rien entendu, monsieur Darx, » répondit Valentine doucement. « Vous n'avez point parlé. » « Mais vous serait-il possible de prononcer des paroles que je ne dois pas entendre ?» Les paupières du juge se baissèrent et son visage prit une expression farouche. « Comment êtes-vous entré jusqu'ici » demanda-t-il. Remy Darx était homme du monde, dans la meilleure acception du mot, et sa courtoisie élégante avait passé en proverbe dans le cercle où vivait Valentine. Pourtant, elle ne parut ni étonnée ni offensée. On eût dit qu'elle s'attendait à la rudesse de cet accueil. « J'ai eu bien de la peine, » répliqua-t-elle avec une sorte d'humilité. « Je suis allée chez vous, d'abord, comme c'était convenu. Germain, votre domestique, ne voulait pas me permettre d'attendre, mais j'étais si pâle qu'il a eu pitié de moi. « C'est vrai, » pensa tout haut Remy, « vous êtes très pâle, mademoiselle de Villanove, et depuis ce matin, vous devez cruellement souffrir. »« Je n'en suis pas morte, » dit Valentine, avec une expression si navrante que Remy tourna la tête pour cacher une larme. Elle continua, « J'ai attendu 2 heures, et votre valet de chambre m'a dit, « Je crois bien qu'il est au palais pour cette affaire de la rue de l'Oratoire. » La voix de Valentine chevrotait comme si le froid l'eût tout à coup saisi. Les yeux de Remy se séchèrent. « Je me suis fait conduire au palais, » reprit la jeune fille, qui parlait désormais avec une fatigue extrême, et j'ai demandé à être introduite auprès de vous, mais cela ne se pouvait pas, monsieur Darx, vous étiez occupé, vous interrogez l'accusé. » Elle chancela. Le juge n'eut que le temps de la soutenir. Un instant il l'eut dans ses bras, et il tremblait plus fort qu'elle. Il l'assit dans son propre fauteuil, ses genoux plièrent, et il tomba prosterné. Il la regardait les mains jointes, mais sans parler. « Asseyez-vous, monsieur Darx, » lui dit-elle, en lui montrant un siège. « Je suis encore bien faible, j'ai failli mourir ce matin. » Le juge recula, comme si on l'eût frappé. Les impressions contrariées se succédaient en lui avec une terrible rapidité. « Il faut m'écouter patiemment, » continua Valentine. « J'ai beaucoup de choses à vous dire et je voudrais avoir la force d'aller jusqu'au bout. J'ai attendu la fin de l'interrogatoire dans ma voiture. Un homme du palais était chargé de me prévenir. Il n'est pas venu. La grille s'est fermée et quand je me suis présenté au guichet, j'ai reçu pour réponse « On n'entre plus ». Moi, je disais, « Au nom du ciel, laissez-moi passer, il faut que je le voie. » Les gens me regardaient. Il y avait déjà un attroupement sur le trottoir. Mon cocher, que je ne connais pas, a eu pitié de moi, comme votre domestique. Il m'a entraîné vers le fiacre en disant, « Signora, je vais vous tirer de peine. » C'était un Italien. Je ne sais comment il avait deviné que moi aussi je viens d'Italie. Le fiacre me conduisit sur le quai à une porte qu'on me dit être celle de la préfecture de police. Mon cocher donna son cheval à garder et m'introduisit sous la voûte. Nous traversâmes plusieurs corridors. Mon guide appela un homme et lui parla. L'homme répondit, « Je risque ma place, c'est 10 louis. » Je donnai ma bourse et je me trouvai dans la cour de la Sainte-Chapelle où l'on me montra une fenêtre éclairée en me disant, « C'est là. » Remy n'écoutait plus, ses yeux étaient cloués au sol. Il dit, « Vous venez me demander sa vie. »« Je viens vous dire, répliqua Valentine, dont la voix se raffermit, il est innocent, et vous le savez. Je le sais, interrompit Remy Darks avec une colère soudaine, moi qui ai les pièces sous les yeux, moi qui viens de lire l'ensemble accablant des témoignages. Vous le savez, interrompit Valentine à son tour, et ce mot fut prononcé avec une autorité si grande que le juge garda le silence. Valentine se taisait aussi. Mais un duel à mort, le moment le plus solennel est celui où les deux adversaires se reposent appuyés sur leurs épées sanglantes. Ce fut Valentine qui renoua l'entretien la première. Par un effort puissant de volonté, elle avait rappelé à ses lèvres le souvenir résigné qui la faisait belle comme une sainte. « Quand la soirée d'hier est loin de nous, monsieur Darks, dit-elle, hier vous m'avez demandé ma main et je vous ai répondu par un refus, en ajoutant que je voulais vous expliquer mes motifs et me confesser à vous, en quelque sorte, parce que personne au monde ne m'a inspiré au même degré que vous une complète estime, une sérieuse sympathie. Depuis hier, la foudre est tombée entre nous. Monsieur Darks, Maurice est accusé d'assassinat, et vous êtes le juge de Maurice. Vous l'avez interrogé, il a dû vous répondre franchement, car jamais un mensonge n'a passé entre ses lèvres. Vous devez savoir au moins une partie de ce que je voulais vous apprendre, et la romanesque histoire de Fleurette n'aura plus pour vous l'attrait de la nouveauté. Je vous ai annoncé aussi des révélations d'un autre genre. Le hasard a mis sous mes yeux le travail confié par vous au colonel Bozzo, et c'est en faisant allusion à la bataille que vous livrez, monsieur Darks, que je vous avais dit « Je suis comme vous la victime de cette redoutable association de vous à moi. Il existe une attache mystérieuse. Eh bien, la même attache vous lie maintenant à Maurice Pagès. Refuserez-vous de le défendre contre ceux qui ont tué votre père ?» Remy n'osa pas la regarder en répondant d'un ton glacé. « J'ai cru à ces choses, mademoiselle, mais je n'y crois plus. » « Ne mentez pas !» s'écria Valentine sévèrement. « Vous y croyez encore, vous y croirez jusqu'au dernier jour de votre vie !» Elle prit la main de Remy qui essayait de la retirer. « Ayez compassion de vous-même, lui dit-elle en le suppliant du regard. « Un cruel malheur est sur Maurice et sur moi. Mais c'est vous que je plains et je n'accuse que la fatalité. J'ai tué deux fois celui que j'aime, en le livrant à la justice et en vous inspirant ce funeste amour qui aveugle votre conscience. » Remy retenait la main qu'on lui avait tendue, elle le brûlait. Il la pressa passionnément contre son cœur. « Je suis dans l'enfer, murmura-t-il, et c'est le paradis. Chacune de vos paroles m'enivre en me torturant. Je vous aime, comme jamais créature humaine ne fut adorée. Vous êtes venu apporter un aliment nouveau au feu qui me dévore. Je suis seul avec vous. J'ai votre main dans les miennes. Savez-vous ce que peut le délire d'une pareille fièvre ? » Il la repoussa avec violence et recula son siège. « Oh, pourquoi êtes-vous venu ? » ajouta-t-il en un gémissement. « Je suis venu, répondit Valentine, qui le couvrait de son regard calme et clair, parce que je veux le sauver et parce que je veux me venger. « Vous l'aimez donc, vous aussi, jusqu'à la folie ?» balbutia Remy, dans un sarcasme qui crispait la lèvre. « Je l'aime bien, répondit simplement Valentine. « Car c'est de la folie, continua le juge, que d'espérer en moi, après ce que je viens de vous dire. Voulez-vous davantage? Ce que je viens de vous dire n'explique pas la millième partie des misères de mon âme. Je me l'avouais à moi-même tout à l'heure. Pourquoi vous le cacherais-je? Plus de feinte. Cet homme est innocent, mais il est l'obstacle qui me sépare de vous. Il mourra. Dites que c'est un crime lâche et froidement conçu. Le magistrat est un prêtre, c'est un sacrilège. Voilà comme je vous aime. Il mourra !» Ses deux mains étreignaient les bras de son fauteuil et sa voix haletait, épuisée. Le regard de mademoiselle de Villanova n'était plus triste, mais il n'avait rien perdu de sa douceur. « Non, fit-elle, comme si elle se fût parlée à elle-même, je ne l'aime pas comme cela, et il ne voudrait pas d'un pareil amour. « Vous avez prononcé un mot, monsieur Darks, qui me rassure et qui vous excuse. Le délire s'est emparé de vous, c'est le délire qui parle. Je ne crois pas ce qu'il dit. Je suis calme, vous le voyez. Écoutez-moi froidement. D'abord, Maurice n'est pas un obstacle entre vous et moi. » Les yeux du juge devinrent fixes. Il crut avoir mal entendu. « Comprenez-moi bien, reprit Valentine. Je vous ai dit, je veux le sauver et je veux me venger. C'est précis et c'est net. Je le veux. Vous êtes maître de sa vie. Je suis maîtresse de ma main. Je vous offre ma main pour sa vie. » Il y avait de l'égarement dans les yeux de Remy. « Il ne faudrait point, poursuivit Valentine, donner à mes paroles d'hier un sens qu'elles n'avaient pas. Je vous ai dit que je ne pouvais pas être à vous, et j'ai opposé à votre recherche mon passé comme une barrière. Une partie de l'énigme vous a été révélée. J'ai été Fleurette, la saltimbanque, avant de m'appeler Mademoiselle de Villanova. Et je vous l'ai dit aussi, Fleurette était une honnête fille. Mademoiselle de Villanova sera une honnête femme. » « Je ne rêve donc pas, balbutia Remy d'Arx. » Valentine le prit sous sa mantille un rouleau de papier et le déposa près de lui. « Il faut, dit-elle, que vous connaissiez complètement celle qui portera votre nom. Voici ma vie tout entière, et j'affirme devant Dieu que ces pages contiennent l'exacte vérité. Vous y trouverez une révélation qui vous est due, je vous l'avais promise. Dans cet écrit, vous verrez que nos ennemis sont les mêmes. » Votre haine est ancienne déjà, et je la servais avant que la mienne fût née. Pourquoi allais-je vers vous? Je ne sais, peut-être était-ce mon destin. Mais maintenant il me faut à moi aussi ma vengeance. Elle entre dans mon pacte. Vous punirez ces hommes qui m'ont pris mon bonheur. Votre bonheur, répéta Remy d'une voix oppressée. Oh, dit Valentine, l'accent tranquille et la tête haute, nous parlons franchement, monsieur d'Arx. C'est un marché que je vous offre. Je vous ai posé les conditions. Répondez franchement aussi. L'acceptez-vous? Il n'y avait pas la moindre nuance de mépris dans l'accent de Valentine. Elle disait vrai dans toute la force du terme. C'était un marché qu'elle proposait. Elle agissait de bonne foi, sans scrupule ni fausse honte. D'autres auraient certainement tourné la question de façon à la rendre plus acceptable, mais Valentine agissait selon sa nature qui était de marcher tout droit. C'était une singulière fille et son âme avait l'héroïque beauté de son visage. Et quelle que fût sa naissance, car aucune certitude n'existait à cet égard et nous verrons qu'elle doutait elle-même de son droit à porter le nom de Villanova, ce devait être un fier sang, droit et fier, qui coulait dans ses veines. Au fond des campagnes, il y a des sérénités que rien n'arrête ni ne détourne. Il en est aussi dans les villes. Les flatteurs du peuple affirment que les mansardes en sont pleines. Les flatteurs des puissants n'osent pas prétendre qu'elles encombrent les boudoirs. Elles existent, voilà le vrai, on en a vu, mais elles sont rares en bas comme en haut. Valentine n'était pas à proprement parler ni du boudoir, ni de la mansarde. Le milieu misérable où son enfance et sa jeunesse s'étaient passées ne participe en effet ni de l'un ni de l'autre. Cette population de la foire dont elle faisait partie autrefois, sans lui ressembler en rien, l'avait admirée et entourée. Le monde noble où elle était entrée en sortant de là, sans transition aucune, l'avait examinée en vain de son regard le plus sévère et le plus perçant. Rien ne restait en elle qui décelât le long voyage qu'elle avait fait dans le pays des saltimbanques. Elle ne ressemblait plus, il est vrai, à ses charmantes compagnes du salon qu'elle avait rassemblées, à ses pauvres amis, mais elle restait si digne et si décente dans sa libre originalité que le grand monde de l'hôtel d'Ornans, comme le petit monde de la foire, l'entourait et l'admirait. Elle était elle-même. Elle agissait, suivant son impulsion propre, elle ne demandait conseil qu'à son goût exquis, pour les choses frivoles, pour les choses sérieuses, qu'à sa conscience. Dans la conjoncture bizarre où elle se trouvait aujourd'hui, étant donné le but qu'elle voulait atteindre, peut-être eût-il mieux valu s'y prendre autrement, mais elle ne savait qu'une route et la suivait. Remy d'Arx aussi était un solitaire, et sa voix s'écartait pareillement des sentiers battus. Néanmoins, il côtoyait de trop près la vie commune pour n'être point surpris et offensé par la brutalité apparente de cette offre qui, au fond, exauçait son plus ardent, son unique désir. Nous l'avons dit, il n'y avait aucun mépris dans l'accent de Valentine, mais sa proposition même impliquait un mépris si terrible que Remy Darks resta comme pétrifié. Sa passion, qui était sa vie même, subissait une sorte d'écrasement. À l'heure où, par un miracle, l'abîme qui rendait pour lui l'espoir impossible se comblait tout à coup, la dernière lueur d'espoir s'éteignait en lui. Son orgueil, humilié profondément, essayait de se révolter contre cet amour qui n'était plus rien, sinon une mortelle angoisse, mais qui grandissait par la douleur même et qui le tenait terrassé comme la main d'un géant. Dans la vaillance naïve de son sacrifice, Valentine répéta sa question. Sa voix n'avait rien perdu de son inflexion sonore et tranquille. Le sang monta aux joues de Remy Darks. Il en fit effort pour parler. Ses yeux s'injectèrent. En ce moment, un fougueux élan de haine passa au travers de son amour. La beauté de Valentine prenait pour lui des rayonnements surhumains qui insultaient à son supplice, qui envenimaient son martyre. Une immense colère bouillonnait en lui. Ce fut une pensée de vengeance qui rompit son mutisme, et cette parole s'étrangla dans sa gorge. « J'accepte. » Valentine pâlit, mais elle sourit. « C'est bien, murmura-t-elle. Vous avez confiance en moi, et je vous en remercie. »« À quand la noce ?» demanda brusquement Remy. Son accent essayait d'être sarcastique. « Quand vous voudrez, monsieur Darks, répondit Valentine, dont les yeux se baissèrent pour la première fois. « Le plus tôt sera le mieux, n'est-ce pas ? » murmura le juge entre ses dents serrées. Valentine répliqua. « Je vous ai peut-être fâché, et vous dites cela comme on raille ou comme on menace ?» Remy essuya la sueur de son front. « Raillé, dit-il en se parlant à lui-même, je puis bien me railler, c'est la dernière ressource, mais menacé. Fi donc, je suis esclave et vous êtes reine. » Son regard devint suppliant et il ajouta, « Écoutez, l'excès de la souffrance rend méchant, j'ai senti cela tout à l'heure, j'aurais voulu vous faire un peu de mal, tant mon cœur était atrocement broyé. » Le regard de Valentine s'attrista, mais elle garda le silence. « Répondez, continua Remy Darks, vous qui ne savez pas mentir, dites-moi quelle arrière-pensée est en vous. »«
Je n'ai pas d'arrière-pensée, prononça tout bas mademoiselle de Villanova. Quand j'aurai sauvé l'homme que j'aime, et quand je l'aurai vengé, tout sera dit entre lui et moi. J'ai pesé ma tâche et je l'accomplirai. Je suis sûr de moi-même. »
« Et l'homme qui aura accepté votre sacrifice, prononça timidement Remy, « que lui donnerez-vous ? » ?»«
Pour le présent, je lui donne ma foi. Pour l'avenir, » elle hésita.
« Pour l'avenir, » répéta Remy. Comme elle tardait à répondre, il s'agenouilla devant elle, disant avec toute sa passion revenue, « Oh, Valentine, Valentine, vous n'êtes pas comme les autres femmes. Et qu'ai-je de commun avec les autres hommes ? Si le monde était pris pour juge, il me condamnerait à refuser. » Mais savent-ils, ceux du monde, ce qu'est un grand, un irrésistible amour? Je suis entraîné par une force qui me subjugue. J'ai essayé de combattre. Chacun de mes efforts attise le feu qui me consume. Je vous aime à un point que nul ne saurait dire. Vous êtes ma conscience, vous êtes mon honneur. Hors de vous, dans cette vie comme dans l'autre, il n'y a rien pour moi. Je sens si bien que mon existence entière serait consacrée à votre bonheur. Vous avez parlé d'avenir, Valentine. Je sens si bien que je vous rendrais la plus heureuse des femmes si vous m'aimiez dans l'avenir ce que je vous donnerais de ciel sur la terre. Ce n'est pas un amour, non, l'amour appelle l'amour. À force de vous adorer, je fléchirais votre cœur. Jusque-là, je vous le jure, Valentine, et voilà comment j'accepte, je resterai près de vous, respectant vos regrets, consolant vos douleurs, comme un frère, et je mourrai ainsi, je vous le jure encore, patient, résigné, et si le jour ne vient pas où vos lèvres d'elles-mêmes s'abaisseront vers celles de votre mari prosterné. » Une larme tremblait aux cils de Valentine. Elle dit pour la seconde fois, « Monsieur Darks, je vous remercie. » Et puis, changeant de ton et rappelant son beau sourire, elle l'ajouta,
Nous sommes des fiancés, je vais vous demander mon cadeau de noces. Parlez, s'écria Remi, dussiez-vous souhaiter l'impossible? Elle le prit par la main et le releva. Monsieur Darcs, dit-elle, je veux voir Maurice pour la dernière fois. Ce fut comme un poids de glace qui tomba sur le cœur du juge. Ah, fit-il amèrement, j'aurais dû m'attendre à cela. Vous répondez à mon défi, vous me demandez l'impossible. Elle répéta, sans rien perdre de sa douceur, mais avec fermeté, il faut que je voie Maurice. Remi ne pouvait plus pâlir, mais ses traits se décomposèrent. Vous savez bien, dit-il très bas, car sa colère contenue lui faisait peur à lui-même, vous savez bien que je ne puis vous refuser. Plus tard, demain. Aujourd'hui, interrompit Valentine, ce soir. À cette heure de la nuit, s'écria Remi, je ne connais pas d'exemple. Elle s'interrompit encore et dit, Monsieur Darcs, vous êtes juge d'instruction. À l'égard de l'accusé que la loi vous livre, votre pouvoir n'a point de borne. Remi courba la tête. Le souffle s'embarrassait dans sa poitrine. Après un instant, il saisit brusquement la lampe et dit, « Vous le voulez, suivez-moi. » Il prit le chemin de la porte. Valentine marchait derrière lui. Comme il atteignait le seuil, deux mots tombèrent de ses lèvres, peut-être à son insu. « L'arme invisible, prononça-t-il. » Valentine l'avait rejoint, elle prit son bras. « Vous chancelez, monsieur Darcs, dit-elle, appuyez-vous sur moi. » « Oui, l'arme invisible vous a frappé comme elle me frappa. Il semblerait que même, avant la bénédiction qui doit nous unir, Dieu avait créé entre nous un lien fatal. » « J'ai lu, continua-t-elle, répondant à l'interrogation muette de Remi, ces pages où se résume le travail de toute votre vie. Vous avez bien fait d'en tirer trois exemplaires. Sait-on à qui se fier ici-bas? Je vous ai apporté moi aussi ma confession. Lisez-la. Chacun de nous, vous le verrez, connaît une moitié du sombre secret. C'est pour cela que nous partageons les coups de l'arme invisible. » Remi ne demandait pas mieux que de trouver un obstacle sur la route où il marchait malgré lui. Il s'était arrêté. « Vous trouverez dans l'écrit qui est là sur votre table, » poursuivit Valentine, « l'explication de mes paroles. Désormais, la source dangereuse où vous puisiez vos renseignements est tarie. J'ai eu peur pour vous, monsieur Remi Darcs, à dater de cette rencontre nocturne qui me fit votre obligé. Je savais trop bien quelle était la puissance de l'association à laquelle s'attaquait votre courage. J'ai voulu voir celui qu'ils appellent le marchef. Vous avez vu Coyatier, s'écria le juge, vous? Je l'ai vu, et vous ne le verrez plus. Cette nuit, le sang a été répandu. Ce serait lui, balbutia Remi. Oh, dit mademoiselle de Villanove, et sans la précaution que vous avez prise de mettre en trois mains différentes les exemplaires de votre mémoire, on n'aurait pas eu besoin contre vous de l'arme invisible, Coyatier aurait suffi, car vous êtes riche, monsieur Darcs, mais Coyatier a une chaîne autour du cou, et si prodigue que vous ayez été, les habits noirs auraient pu centupler votre enchère. Expliquez-vous, voulut dire Remi. Marchons, répliqua la jeune fille, tout ceci n'ajoute rien à la certitude que vous avez de l'innocence de Maurice. Coyatier a disparu après la besogne faite. Vous ne le regretterez pas, il avait tout dit. Les choses qu'il ne pouvait vous apprendre parce qu'il ne savait pas, l'écrit qui est là vous les révélera. Elle se retourna et son doigt tendu montra la table où était le rouleau de papier. Et puis elle entraîna Remi vers le corridor. Au moment où la porte de l'antichambre se refermait sur eux, l'autre porte, celle par où le greffier Préau était sorti après l'interrogatoire, s'ouvrit sans bruit. Le cabinet du juge d'instruction n'était plus éclairé que par une vague lueur de la lanterne qui brûlait dans la cour. Deux hommes entrèrent à pas de loup. « Drôle de fillette, dit l'un d'eux, elle le retourne comme un goujon dans la poêle. Il faudra donner une gratification à Giovanni Battista, sais-tu ? Nous jouons avec le feu, papa, reprit l'autre homme. On n'est pas bien ici pour causer, ça sent la cour d'assises. Tout en parlant, sa main tâtait la table et finit par trouver le rouleau de papier déposé par Valentine. Ah, voilà l'objet, fit-il, filons. Mais de par tous les diables, que faites-vous là, papa?
Celui qui avait parlé le premier s'était installé dans le fauteuil de Remy Darx. Il dit avec ce petit rire sénile que nous avons entendu si souvent,
« Une coquinette comme cela vaut 2 ou 3 douzaines de coyatiers, hé, l'amitié. Alors ce cher Remy t'a fait demander à la 2e division ?»«
Il faudrait avoir 36 noms, répondit le coq en haussant les épaules. La veuve Samayou aura bavardé. Vous vous tirerez peut-être encore de cette affaire-là, et nous aussi, patron, mais la corde est bien tendue désormais, et je crois que le meilleur serait de liquider, puisque nous sommes riches. »
Le colonel se leva. « Mon fils, répondit-il, nous avons du temps devant nous. Quand on fait des équipées comme celle-ci, on n'a que 30 ans, sagodémie. Je suis tout aise d'avoir pénétré dans le sanctuaire de la justice. Allons-nous-en, par où nous sommes venus. La préfecture est aussi un bien joli séjour, et il fait bon avoir des amis partout. »
Ils sortirent. On aurait pu entendre ces derniers mots prononcés par le colonel pendant qu'il traversait le bureau du greffier.
Un drôle de fillette. Ah, j'oubliais de te dire une chose qui a son importance. Je suis sur la trace des 2 exemplaires du fameux mémoire. Il faut quelquefois aider un peu l'arme invisible.
Et l'amitié, à qui servira la corbeille de noces?
Et on ne pourra pas dire que je n'ai pas mené rondement ma dernière affaire.
Remy Darx et Valentine suivaient les corridors solitaires. Ils ne rencontrèrent pas une âme depuis le parquet jusqu'à l'escalier descendant à la conciergerie. La route était courte, elle leur parut bien longue. Remy allait d'un pas pénible et plus d'une fois il fut obligé de s'arrêter. Désormais, ils gardaient tous deux le silence. Le premier guichetier qu'ils rencontrèrent vint à eux vivement, mais il se détourna en portant la main à sa casquette quand il reconnut le juge. À la pistole, Remy ordonna qu'on lui ouvrît la cellule du lieutenant Pagès. Cet ordre fut reçu avec étonnement, mais ne souleva aucune objection. Les magistrats chargés d'instruire les affaires criminelles exercent là-bas, en concurrence avec le ministère public, un pouvoir absolu. Leur responsabilité dégage de plein droit celle des employés de l'administration, quel que soit le grade de ces derniers. C'était la présence de Valentine qui excitait l'étonnement. C'était aussi la détresse visible qui se lisait sur les traits du juge. Quand le porte-clés fit jouer la serrure, Valentine fut obligée de soutenir Remy, qui semblait près de se trouver mal.
« Courage, monsieur Darx, lui dit-elle, vous souffrez, mais pour cet instant de souffrance, moi, je vous donne toute ma vie. »
Ils entrèrent. Au bruit que fit la porte, Maurice, qui était couché sur son lit, releva la tête indolemment. Il bondit à la vue de Valentine et s'élança vers elle, mais l'aspect de Remy l'arrêta stupéfait.
« Ensemble, murmura-t-il. »
Remy était resté près du seuil et s'appuyait à la porte refermée.
Valentine aurait voulu se retenir peut-être. Elle ne put, son cœur l'entraîna. Elle courut à la rencontre de Maurice et lui jeta ses 2 bras autour du cou en sanglotant. Ils se tinrent ainsi embrassés pendant toute 1 minute qui fut, pour Remy, plus longue qu'un siècle. Le transport de sa jalousie furieuse mais impuissante lui montait au cerveau. Il avait passé sous le revers de son habit pour s'empêcher de rugir sa main qui ensanglantait sa poitrine. En même temps, son oreille se tendait avidement pour saisir la moindre parole prononcée, mais il ne surprit que ces mots qui restèrent sans réponse. « Maurice, monsieur Darx connaît ton innocence, il a promis de te sauver. » Valentine, il est vrai, avait ajouté tout bas, « Je t'aime, ne me juge pas, je suis à toi, je ne serai qu'à toi. » Il y eut entre eux une dernière étreinte échangée et leurs bouches se rencontrèrent en un baiser rapide comme l'éclair. Et puis Valentine se dégagea et revint vers le juge en disant « Sortons, je souffre plus que vous. » Elle repassa le seuil, la première. Remy, au lieu de la suivre, fit un pas vers le prisonnier. « Lieutenant Pagès, dit-il d'une voix lente et qui allait se brisant à chaque mot, vous êtes innocent, je crois. Vous serez sauvé, je le promets. Madame Remy Darx ne vous a point sauvé. » Madame Remy Darx, répéta Maurice, qui recula comme si la foudre l'eût frappé. Les lèvres blêmes du juge eurent un sourire. Au fond de son agonie, il triomphait. « Elle m'appartient, dit-il. Je l'ai achetée. Je vous épargne l'échafaud, mais c'est pour avoir le choix des armes, et vous ne me devez rien. Le lendemain du jour où vous serez libre, je vous tuerai. »